France Inter, 8h. Le journal Marc Fauvel, bonjour.
Bonjour à tous. À la une ce matin, un espoir et une formidable avancée scientifique. Une équipe française est parvenue à réveiller le cerveau d'un homme plongé dans un état végétatif depuis des années. Daniel Messager nous expliquera comment. On verra également les questions éthiques que pose cette découverte. En France, on n'a pas de pétrole, mais on avait le TGV, le fleuron de l'industrie française. S'apprête à passer sous pavillon allemand. Aujourd'hui, avec le rachat d'Alstom par Siemens, nous irons à Berlin. À peine lancé le mouvement des routiers, ferait-il déjà du surplace ? La mobilisation a été en demi-teinte hier. Le gouvernement reçoit les syndicats aujourd'hui. Dans 20 minutes, une porte qui claque au ministère de l'Éducation nationale. Il était l'homme qui faisait la pluie et le beau temps sur les programmes scolaires. Il annonce ce matin sa démission. Il est votre invité à 8h20, Nicolas.
Oui, Michel Lussault, le président du Conseil supérieur des programmes. Il nous expliquera dans quelques instants les raisons de son départ. Grosse divergence avec Jean-Michel Blanquer. Vos questions dès maintenant, 01 45 24 7000.
Dans ce journal également, panique chez les riches. Le gouvernement veut prendre de court les Français les plus aisés qui cherchent à échapper à la nouvelle taxe sur l'assurance vie. Elle pourrait finalement s'appliquer dès demain. Du béton dans les champs et une sacrée pagaille. Les opposants au méga complexe Europa City ne baissent pas la garde. Enfin, l'histoire du jour à la fin de ce journal, un poilu de la Première Guerre mondiale enterré aujourd'hui 103 ans après sa mort.
Inter.
Peut-on, doit-on réparer un cerveau humain ? Dit comme ça, la question donne le vertige. Et pourtant, c'est bien l'exploit que vient de réaliser une équipe de chercheurs lyonnais. Leur patient, victime d'un accident de la route il y a 15 ans, était plongé dans un état végétatif. Mais grâce à une nouvelle méthode qui consiste à envoyer des impulsions électriques, il a recouvré des signes de conscience. Angela Sirigu est l'une des chercheuses responsables de l'étude.
On a remarqué des changements au niveau du comportement, la capacité à soutenir un regard, à suivre à travers les regards une personne qui se déplace à son côté. Ça, c'est au niveau du comportement. Le deuxième résultat est qu'on a remarqué des changements très importants au niveau de son cerveau. Les régions importantes pour la conscience, en particulier la conscience du corps, ces régions, ils se sont réactivées après la simulation.
Angela Sirigu, directrice de l'Institut des sciences cognitives. Bonjour Daniel Messager.
Bonjour.
Comment les scientifiques ont-ils procédé ?
Alors, ils ont utilisé une technique de stimulation électrique, technique déjà mise en pratique dans le cadre de la dépression ou de l'épilepsie, jamais sur un état végétatif. Les chercheurs et médecins ont émis l'hypothèse suivante. Il existe un nerf, le nerf vague, qui traverse une partie très étendue du corps, dont les terminaisons pénètrent à la base du cerveau, dans des régions importantes pour la conscience. Pourquoi alors ne pas stimuler ce nerf pour réactiver un degré de conscience. Là, l'intervention a eu lieu au niveau du cou, moins risqué que le cerveau. Une électrode a été implantée, reliée à un générateur qui envoyait 30 secondes d'impulsion, s'arrêtait 5 minutes, et ceci en permanence.
Alors, tout cela pose question sur le pouvoir de la science et sur une forme d'acharnement thérapeutique.
Alors, déjà, il faut savoir que c'est un domaine dans lequel on est très démunis, donc c'est une avancée importante. Mais il ne faut pas croire que ce patient va, par exemple, reparler, remarcher. Non, son cerveau est trop endommagé. Ce que souhaitent les chercheurs maintenant, c'est pratiquer cette intervention sur des patients en état de conscience minimale, donc moins atteints. Le comité d'éthique leur a donné l'autorisation pour 3 autres malades. Mais vous avez raison de poser la question, quel est le bénéfice réel pour ces patients ? Ils sont 1500 en France dans un état végétatif ou de conscience minimale. Quelle attente pour les familles ? Car se posent aussi des questions d'éthique. Quel sera le suivi et l'accompagnement de ces patients ? Un grand champ de réflexion vient de s'ouvrir.
Merci Daniel Messager.
8h4, c'est la fin annoncée d'un fleuron français. Le TGV s'apprête à passer sous pavillon allemand.
Le groupe Siemens va officialiser aujourd'hui son mariage avec le français Alstom, mariage de raison face à la concurrence des Chinois, notamment mariage de raison aussi, car le Canadien Bombardier lorgnait sur la mariée depuis des mois. Les deux groupes vont donc se dire oui, mais c'est bien Siemens qui tiendra le manche et qui dirigera le futur ensemble. On a entendu ce matin l'inquiétude côté français, mais qu'en est-il en Allemagne ? Bonjour Cyril Sauvageau.
Bonjour.
Est-ce que chez vous, on considère que c'est encore une victoire allemande ?
Eh ben, c'est pas du tout comme ça que les médias allemands présentent la fusion, plutôt comme une réponse européenne inévitable dans un secteur chamboulé par la montée en puissance du géant chinois CRRC. Le futur groupe Siemens Alstom, déjà présenté comme un Airbus du rail, fait figure de nouveau poids lourd, leader européen avec 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Le dossier est stratégique, il est suivi de près à Berlin comme à Paris. Angela Merkel a été tenue informée des négociations. Le deal sera donc le suivant. Le groupe de Munich prendra 50% du capital l'hôpital d'Alstom, mais il y aura des compensations pour les Français. Le siège et la direction opérationnelle sont à Paris. C'est une solution déjà trouvée par Siemens au début de l'année pour son rapprochement dans l'éolien avec l'espagnol Gamesa. C'est l'actuel PDG d'Alstom, le français Henri Poupart-Lafarge, qui dirigera ce nouveau géant du rail. Une concession qui fait d'ailleurs grincer des dents en Allemagne, rapporte le quotidien des affaires Handelsblatt. Mais l'inquiétude ici, comme en France, porte sur l'avenir des 60 000 salariés. Les deux entreprises sont sur les mêmes marchés avec des produits similaires, à commencer par le TGV et son cousin allemand ITCE. Quelles conséquences sur l'emploi? Des réductions d'effectifs à terme sont à craindre. Récemment déjà, Siemens a annoncé 300 suppressions de postes de sa branche ferroviaire face à la concurrence dans le secteur.
Cyril Sauvageau en direct de Berlin. Merci à vous. Le couple franco-allemand, il en sera question cet après-midi dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne à Paris. C'est là qu'Emmanuel Macron va dévoiler son plan de relance de l'Europe. Question calendrier, on pouvait difficilement faire pire. Au surlendemain des élections allemandes, alors qu'Angela Merkel est sous la pression de l'extrême droite et de ses futurs partenaires de coalition, le président va plaider pour une Europe à plusieurs vitesses, pour un budget de la zone euro et pour une taxe carbone aux frontières de l'Europe. Bernard Guetta y revient dans quelques minutes.
La question de baisser les bras, les routiers reprennent leur mouvement ce matin.
Mais le cœur n'y est plus forcément, alors que la contestation n'a pas eu l'effet escompté hier. À peine montée, les barrages ont été levés par les forces de l'ordre. Pas d'impact sur les raffineries, ni d'ailleurs sur les dépôts de carburant. Alors qu'en sera-t-il aujourd'hui? Bonjour Hélène Philly.
Bonjour.
C'est une journée charnière qui débute.
Oui, les routiers tentent encore de se faire entendre ce matin. Du côté de Rouen, en Seine-Maritime, de Nantes, de la Mède, dans les Bouches-du-Rhône ou de Vitrolles. Mais le mouvement ne prend pas. Ce sont de petits groupes de quelques dizaines de personnes à chaque fois. À plusieurs endroits ce matin, les forces de l'ordre sont présentes, obligeant les militants à lever le camp, à La Rochelle notamment. Alors les routiers changent de stratégie. À Rennes, ils sont une soixantaine à bloquer le principal dépôt de bus depuis 5 heures ce matin. Ils veulent créer l'effet de surprise, mais la CGT le reconnaît. Les militants sont dans l'attente de cette réunion ce matin. Tous les syndicats sont attendus au ministère des Transports à 11h avant d'être reçus par la ministre elle-même jeudi prochain. Elisabeth Borne veut discuter des moyens de lutter contre le dumping social, contre la concurrence déloyale. Elle répète que le secteur n'a pas de raison de s'inquiéter de la réforme du Code du travail. Elle ne modifiera pas leur temps de travail. Une mesure catégorielle suffira-t-elle aujourd'hui à enterrer le mouvement? Pour les syndicats, jusqu'ici, c'était le retrait des ordonnances ou rien. Aujourd'hui, ils ne ferment plus la porte à rien.
Merci Hélène Philly. On compte tout de même 300 stations-service à sec ce matin sur les 11 000 que compte le pays. Ce n'est pas l'approvisionnement qui est en cause, mais le comportement des automobilistes qui se sont empressés d'aller faire le plein. Vous aviez aimé le feuilleton Sivens ou Notre-Dame-des-Landes. Vous devriez adorer la suite. Cette fois, ça se passe en région parisienne, dans les champs de l'Île-de-France, près des pistes de Roissy. C'est là que le projet Europa City pourrait sortir de terre. Projet pharaonique sur 300 hectares, des hôtels, un parc d'attractions, des piscines et même des pistes de ski, le tout pour un budget de 3 milliards d'euros. Mais comme souvent, il y a un hic, car les opposants ne veulent pas de cette montagne de béton. Ils sont venus le dire hier soir lors d'un conseil municipal houleux à Gonesse, dans le Val d'Oise. Reportage Laura Lick arrive.
Une salle comble, deux clans, les pros et les anti-Europa City, et des esprits qui s'échauffent.
Nous, on est venus pour s'exprimer.
La police intervient, menace de faire sortir les perturbateurs. Le conseil municipal peut reprendre. Pour la majorité socialiste de Gonesse, avec sa salle de spectacle, son parc aquatique, ses hôtels, ses commerces, Europa City, c'est une façon de désenclaver le territoire, créer de l'emploi, aussi dans une commune où le chômage des jeunes flirte avec les 40%. Michel Jauret est adjoint au maire de Gonesse.
Cette jeunesse-là, elle ne peut pas être laissée pour compte. Il faut sortir de cette spirale de la marginalisation de masse qui est faite actuellement, et je pense que le projet qui est proposé sur le triangle de Gonesse, il permet ce développement économique, ça ouvrira des perspectives nouvelles à toute une population.
Mais les opposants au projet, eux, n'y voient qu'une hérésie environnementale.
On va encore ajouter du béton, remplacer des terres agricoles précieuses pour leur substituer des centres commerciaux parfaitement inutiles, des parkings, du bitume, etc. Bien sûr, les centres-villes vont se mourir encore davantage. C'est vraiment une logique qui ne correspond pas du tout à la crise écologique et à la crise sociale dans laquelle nous nous trouvons.
Le collectif pour le triangle de Gonesse compte maintenant sur la justice pour annuler les modifications du plan local d'urbanisme. Un rassemblement est d'ores et déjà prévu à Paris le 8 octobre.
Comment éviter une fuite des capitaux? Parmi les nouveautés fiscales du prochain budget, le gouvernement veut créer un prélèvement forfaitaire unique, destiné à taxer à 30% les revenus de certains produits d'épargne. On sait que le livret A et le LDD en seront exclus, mais pas l'assurance vie, qui sera donc taxée davantage. Et visiblement, cela n'a pas échappé à certains Français aisés qui ont déjà contacté leur banquier pour éviter de passer à la caisse. Comment échapper à l'impôt? Du coup, le gouvernement a décidé d'accélérer et c'est demain que la nouvelle taxe devrait entrer en vigueur au lieu du 1er janvier prochain. Delphine Simon.
La fiscalité va se durcir pour les détenteurs de gros contrats d'assurance vie. Au-delà de 150 000 euros pour un célibataire, 300 000 euros pour un couple, les nouveaux versements seront taxés non plus à 23% mais à 30% s'il s'agit de contrats de plus de 8 ans. Dès cet été, les assureurs ont commencé à prévenir leurs clients. De quoi doper les versements, constate Antoine Delon, président du courtier en ligne Lanxea.
La plupart des clients en ont profité pour faire le plein avant ce changement de fiscalité. Là, la dernière semaine a été vraiment mouvementée. Une journée normale, on a 20 demandes de versement complémentaires. Là, c'était plutôt 50, 60 pour des montants supérieurs à 100, 150 000 euros.
Officiellement, rien n'est acté, mais il ne faudra pas se montrer surpris si la mesure entre en vigueur avant l'heure, prévient un député En Marche. Pour Bercy, il s'agit donc de limiter au maximum les effets d'aubaine. Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'Épargne.
Ça s'est fait dans le passé, c'est pas une première. Petite rétroactivité, parce que la loi ne sera adoptée qu'au mois de décembre, mais la disposition entre en vigueur avant même son adoption. Et là, donc, ce serait au mois de septembre.
Seuls 6 à 7% des contrats sont concernés, mais ce sont les plus gros. En volume, l'effet d'aubaine pourrait donc être non négligeable pour les comptes publics, estime un membre de la Commission des Finances.
Le premier était saturé. 3 nouveaux centres d'accueil pour migrants vont ouvrir leurs portes prochainement à Paris et en région parisienne. 200 places environ chacun. Ils permettront de soulager celui ouvert il y a un peu plus d'un an, porte de la Chapelle à Paris. Combien pour ceux qui ont croisé la mort? Le fonds de garantie pour les victimes du terrorisme a validé hier le principe d'une nouvelle indemnisation pour les victimes d'angoisse de mort imminente. En clair, celles et ceux qui, sans être forcément blessés, ont croisé la route des terroristes. Ils pourront toucher entre 5 000 et 30 000 euros.
Inter 8h12, le résultat ne fait guère de doute, mais il pourrait rallumer, Marc, une mèche dans la région.
Les Kurdes d'Irak ont voté massivement hier lors du référendum sur l'indépendance. Les résultats ne sont pas attendus avant aujourd'hui ou demain. Mais déjà, les autorités irakiennes menacent. Elles ne veulent pas d'un Kurdistan indépendant. Quant aux voisins, la Turquie et l'Iran, ils sont sur la même ligne. Omar Waman est l'envoyé spécial de France Inter à Erbil.
C'est l'isolement total qui guette le Kurdistan irakien après ce référendum historique. L'Iran et la Turquie sont à l'offensive. Les deux pays ont les moyens d'asphyxier l'économie de cette province déjà très endettée. Si Téhéran a commencé les hostilités en interdisant jusqu'à nouvel ordre tous les vols entre ces aéroports et les villes kurdes d'Erbil et de Souleymaniye, la Turquie, quant à elle, en est toujours au stade des déclarations inquiétantes. Furieux devant la détermination des autorités kurdes, le président Erdogan brandit désormais la menace de la fermeture de la frontière terrestre avec le Kurdistan irakien. Plus grave encore, il envisage l'arrêt des transactions pétrolières avec la province kurde, ce qui la priverait de ses revenus pétroliers, soit l'essentiel de ses ressources. C'est le scénario le plus redouté par la province rebelle. Pour dessiner une stratégie commune avec son allié iranien, le président turc fera le déplacement la semaine prochaine à Téhéran, une visite d'État très attendu. Erbil, Omar Waman, France Inter.
Toujours à l'étranger, des centaines de morts en Éthiopie dans des violences interethniques. C'est le gouvernement d'Addis Abeba qui donne ce chiffre. Deux ethnies, les Oromos et les Somalis, se disputent le même territoire. Le gouvernement éthiopien a dépêché des renforts militaires sur place pour tenter de mettre fin au massacre. Regain de tension également en Cisjordanie. Ce matin, un Palestinien a ouvert le feu sur un groupe d'Israéliens. Il a tué 3 personnes près d'une colonie avant d'être abattu par la police israélienne. Aux États-Unis, mauvaise nouvelle pour la Maison Blanche, encore une, elle n'a plus de majorité pour supprimer l'Obamacare, dont Donald Trump avait pourtant fait l'un de ses épouvantails pendant la campagne. Tour à tour, 3 sénateurs républicains viennent de faire défection.
Il est mort il y a plus de 100 ans, mais c'est aujourd'hui qu'il sera enterré.
Un ancien soldat de la Première Guerre mondiale, mort au combat à 22 ans, sera officiellement inhumé aujourd'hui à la nécropole de Notre-Dame-de-Lorette dans le Pas-de-Calais. Son squelette et sa plaque militaire avaient été retrouvés l'an dernier. Sébastien Sabiron a pu joindre ses descendants, émus forcément à l'idée de cette cérémonie.
Cheveux noirs, yeux bleus, nez rectiligne, menton saillant, 1m73. Une description sommaire sur ses papiers militaires. Voilà tout ce qu'Alain Millon connaissait de son arrière-grand-oncle.
Quand ils ont été portés disparus, ils ont vraiment disparu. C'est-à-dire qu'on n'avait rien de lui. Il n'a pas laissé ni femme, ni enfant. Il a été très difficile de trouver une photo. Ses frères qui ont participé à la guerre, tellement marqués par les événements, en ont très peu parlé. et c'est surtout dans son absence que sa mémoire s'est transmise.
Jusqu'à ce que la commune d'Annay-sous-Lens décide d'agrandir son lotissement. Avant le chantier, les archéologues découvrent des ossements, des boutons d'uniforme, une pièce de monnaie et une plaque au nom de Louis Mion, Denis, son petit-neveu.
Ça a été un grand choc moral et puis surtout très émouvant. Depuis qu'il existe les ordinateurs, on avait cherché avec mon fils pour trouver, voir où il était disparu. On nous disait toujours, il est enseveli, il est porté disparu.
Le jeune soldat est mort lors de la violente bataille d'Arras en 1914, une semaine d'hécatombe. Sa sépulture sera surmontée d'une croix blanche comme les 20 000 autres de la nécropole nationale. Denis Mion.
C'est qu'une façon comme une autre de pouvoir dire aux jeunes, n'oubliez pas, n'oubliez jamais ces jeunes qui se sont sacrifiés pour nous, quoi.
Et si le deuxième classe Mion a finalement été retrouvé par hasard sous nos pieds, 270 000 poilus sont toujours portés disparus.
En bref, le football est la deuxième journée de Ligue des Champions. Ce soir, Monaco accueille le FC Porto. Le Real Madrid se déplace à Dortmund. Enfin, si votre voisin se frotte le coude à chaque fois que son téléphone sonne, ne vous inquiétez pas, Nicolas. La marque Levi's va sortir demain sa première veste en jean connectée, conçue par Google. Elle permet par exemple de prendre un appel en touchant un petit bouton placé sur la manche. On peut aussi écouter de la musique, piloter un GPS ou un objet connecté par une simple pression sur le tissu. Tout cela pour la modique somme de 300 euros. Franchement, c'est cadeau. Hein.
Merci, Marc.
Vous avez une veste en jean d'ailleurs.
Oui, j'en ai une, mais elle n'est pas connectée.